Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
L'incertitude grandit en République démocratique du Congo. Il y a 10 jours, dimanche 30 décembre, les Congolais étaient appelés à voter pour élire le successeur du président Joseph Kabila en place depuis 2001. Les résultats de cette élection étaient attendus dimanche 6 janvier, mais ils sont finalement repoussés. Pourquoi l'annonce des résultats est-elle retardée? Quels sont les enjeux de ce scrutin? Bonjour Florence Maurice.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI, correspondante à Kinshasa en République démocratique du Congo jusqu'à la semaine dernière parce que vous avez été expulsé. Pourquoi ?
Mon accréditation a été retirée au lendemain du scrutin. Officiellement, les autorités reprochent à ma radio RFI d'avoir annoncé les résultats provisoires de l'élection, ce qui est interdit, évidemment. Sauf que ce n'est pas le cas. Je n'ai annoncé aucun résultat provisoire. Il y a effectivement des représentants des trois principaux candidats à la présidentielle qui ont chacun exprimé leur tendance sur l'antenne le lundi matin. Mais évidemment, aucun journaliste de RFI n'a repris ces informations à son compte. Peut-être pour comprendre, il faut replacer les choses dans leur contexte.
Absolument. Dites-nous, quelle est aujourd'hui la situation politique en République démocratique du Congo?
Alors, le contexte déjà de ce retrait d'accréditation, c'est la coupure d'Internet le même jour, la coupure des émetteurs de notre radio également le même jour, et une élection présidentielle où il y a de nombreux observateurs qui disent avoir le nom d'un candidat vainqueur, notamment l'Église catholique, et où on a, nous, le sentiment que l'objectif était d'empêcher, dans cette période de comptage des résultats, les informations de l'intérieur du pays de remonter, les informations de remonter aux journalistes, les informations de partir des journalistes pour aller vers la population congolaise.
Et donc, on voit que la situation est assez confuse. Ça fait 18 ans que Joseph Kabila est à la tête du pays. C'est long, 18 ans?
C'est long. Les Congolais sont massivement allés voter dimanche 30 décembre et depuis des années maintenant, ils expriment une énorme envie de changement. Et cette élection est très importante puisque le président Kabila ne se représente pas. Et donc c'est la première fois qu'il y a la perspective d'une transition pacifique depuis l'indépendance du pays.
Et alors est-ce que c'est cette justement perspective qui est aujourd'hui obérée par ce qui est en train de se dérouler dans ce pays?
Bon, le président Kabila n'est pas candidat, donc a priori, il devra s'en aller d'une façon ou d'une autre. Simplement, oui, on sent bien une énorme crispation de la part des autorités vis-à-vis des résultats de cette élection.
Vous étiez donc correspondante pour RFI dans ce pays. Est-ce que la France a encore des intérêts dans ce pays? Est-ce qu'elle est visée de manière particulière par votre expulsion? Comment expliquer en quelque sorte le rapport particulier que ce pays a, comme d'autres pays d'Afrique d'ailleurs, avec RFI?
Alors, je ne sais pas si c'est vraiment lié au rapport avec la France en particulier, mais même si aujourd'hui le paysage médiatique s'est développé hein, au Congo, il y a de très grands médias congolais indépendants qui font très bien leur travail. RFI reste parmi les médias les plus écoutés, les plus implantés sur l'ensemble du territoire, et avec, je pense aussi, une notoriété qui fait que lorsqu'il y a beaucoup d'informations, de rumeurs qui circulent, le réflexe des Congolais, c'est d'allumer RFI pour avoir la bonne information. Et dans ce contexte-là, ce qui est un peu paradoxal, c'est que les accusations qui nous sont faites, à nous et à d'autres, c'est de vouloir influencer la population congolaise, provoquer un soulèvement, intoxiquer les gens, alors que nous ne faisons que relayer des informations. Et le sentiment qu'on a, c'est plutôt que les autorités cherchent à empêcher ces informations d'émerger.
Y compris d'ailleurs sur Internet, parce que l'autre question qui se pose, alors il y a donc RFI dont l'émission est toujours coupée.
La plupart de nos émetteurs sont toujours coupés, oui.
Et Internet, alors là, c'est une autre situation. Florence Maurice, vous qui étiez correspondante en République démocratique du Congo, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment le pouvoir fait pour tenter de juguler l'information?
Alors, donc Internet a été coupé vers 11h du matin au lendemain du scrutin. C'est une coupure qui est plus longue et plus sévère que d'habitude, plus stricte. Ça a commencé par les envois lourds, donc les vidéos, les photos, et puis très rapidement, y compris les SMS ont été coupés. Il y a eu d'autres mesures de télécommunication. Ma puce professionnelle, mon téléphone professionnel a également été désactivé.
Ah oui.
Oui, et bon, en fait, les autorités procèdent par des mesures de pression sur les grands opérateurs de téléphonie. Il y a même quelques interpellations de cadres de groupes de téléphonie qui ont été signalées cette semaine.
Et alors, est-ce qu'au niveau de la société civile, cela fonctionne ? Est-ce que le fait de couper Internet, de rendre difficile, voire impossible l'information, est-ce que cela peut permettre au pouvoir de conserver la mainmise ? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui, bon, les choses sont dans un état tel après 18 ans donc de gouvernement de Joseph Kabila, qu'il n'est pas possible de maintenir sous le boisseau la société civile?
Alors, d'abord, bon, il y a évidemment un effet. Ils ont évidemment beaucoup entravé la collecte des résultats par les grands réseaux d'observateurs qui avaient été implantés sur le territoire, qui se servaient notamment de WhatsApp pour faire remonter ces résultats. Malgré tout, l'Église catholique a déployé 40 000 observateurs sur le terrain. C'était préparé. L'Église avait anticipé cette coupure, comme beaucoup d'autres. Donc ça n'a pas véritablement empêché les résultats de remonter, même si ça a ralenti les choses. Et ça a au contraire alimenté un climat de suspicion. C'est-à-dire que de voir comme ça tous les canaux d'information se refermer au lendemain d'une élection, au moment du dépouillement, évidemment, ça ne peut que créer, les suspicions.
Et beaucoup d'émotions à l'étranger. Est-ce que l'image du pays, la manière dont celui-ci est observé en Europe, aux États-Unis, est-ce que ça peut jouer sur le régime, ou bien est-ce qu'aujourd'hui ça n'a plus vraiment d'incidence, Florence Maurice?
Alors ça peut jouer, bien sûr. Les diplomaties occidentales ont entre autres jouer un rôle, notamment pour convaincre le président Kabila de ne pas se représenter, parce que déjà ça, ce n'était pas gagné. Mais les Congolais sont aujourd'hui vraiment dans une posture très souverainiste, et de plus en plus. Et des pressions, même européennes, pourraient parfois être contre-productives. Je signale par exemple que le représentant de l'Union européenne sur place a été expulsé à 2 jours du scrutin. Aujourd'hui, les acteurs qui pèsent vraiment et que les diplomaties européennes mettent en avant, c'est plutôt l'Union africaine. Et en l'occurrence, l'Union africaine est assez mal à l'aise sur le dossier congolais et assez divisée.
Qu'est-ce que l'on peut imaginer dans un futur proche pour la République démocratique du Congo, Florence Maurice ?
Il y a énormément d'incertitudes à l'heure actuelle. Le Congo est un pays très difficilement prévisible. Là, voilà, la grande question à laquelle on aura peut-être une réponse dans les jours qui viennent, c'est est-ce que ce candidat que l'opinion congolaise semble considérer être le vainqueur, est-ce que c'est bien lui ? Est-ce que cette vérité des urnes va être respectée ? C'est l'appel que lancent aujourd'hui tous les acteurs internationaux sur place. Mais il y a encore beaucoup de doutes sur le fait que ce sera le cas.
Merci Florence Maurice. Je rappelle que vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Vous étiez en République démocratique du Congo, dont vous avez été expulsé. Merci de vous être exprimé sur France Culture.